Chapitre 4. Jane avait cherché en vain une dissection cérébrale dans les rapports d'autopsie consultés jusque-là. Elle aurait aimé découvrir la description d'une anomalie au niveau de la matière grise. Comme le café ne l'avait pas réchauffée, elle s'accorda une pause afin de s'intéresser à David James Michael. Ce dernier siégeait au conseil d'administration de l'Institut Gernsback, organisateur de la conférence annuelle « Si jamais », ainsi qu'à celui de la fondation Seedling, où il avait côtoyé le très riche T. Quinn Eubanks, qui s'était lui-même suicidé. Le dossier consacré à David James Michael était si complet que Jimmy Radburn aurait mérité de figurer dans le panthéon des hackers. David James, à 44 ans, était l'unique héritier de la fortune qu'avaient gagnée ses ancêtres dans les chemins de fer, avant de se diversifier en investissant dans le pétrole, l'immobilier et autres activités lucratives du siècle précédent. Il avait fort bien géré le patrimoine familial en créant un fonds de capital risque qui finançait des start-up dans les hautes technologies. Son sens aigu des affaires l'avait superbement servi, car il avait su choisir des entreprises gagnantes dans 80% des cas. Il avait quitté sa propriété de chasse en Virginie pour s'installer à Palo Alto 3 ans plus tôt, afin de se rapprocher de la Silicon Valley. Les photographies de lui réunies par Radburn révélaient un homme qui n'avait rien conservé de l'allure guindée de ses ancêtres. Ses cheveux blonds donnaient faussement l'impression d'être coiffés avec les doigts, alors qu'il était manifestement passé entre les mains d'un coiffeur à $500 de l'heure. Il avait la réputation de se rendre à ses rendez-vous d'affaires en jean et basket, le pan de chemise hors du pantalon, mais divers portraits de lui le montraient avec des montres différentes, prélevées dans une collection dont la pièce la plus modeste valait $50 000. Il était régulièrement fait allusion à sa philanthropie comme à son dévouement à diverses causes d'intérêt général, allant de l'orchestre symphonique de San Francisco à la protection des zones humides, et il ne cachait pas son penchant pour la gauche en politique. Le genre de personnage que Jane connaissait bien, dont la moindre intervention en public était soigneusement calculée. Les gens adorent les jeunes milliardaires rebelles que leur fortune semble gêner, au point de distribuer leur fortune à tout va. En réalité, les dons effectués par David James Michael représentaient à peine 1% de son patrimoine. Lui-même, sa femme et son conseiller en images étaient les seuls à savoir qui se cachait vraiment derrière le personnage public, et peut-être même pas sa femme. Au nombre des sociétés qui avaient bénéficié de ses largesses figuraient Schenck Technologies et plus récemment Far Horizons, une firme créée en partenariat avec Bertolt Schenck. À défaut de localiser le complot, Jane venait d'en découvrir l'un des centres névralgiques en identifiant Schenck, Michael et Far Horizons. Comment approcher l'un des deux hommes et l'obliger à parler? Le milliardaire serait forcément protégé par des nuées de gardes du corps et d'agents de sécurité. Schenck était infiniment moins riche que son investisseur, mais s'il avait monté ce complot avec lui, il possédait nécessairement des informations gravement dommageables pour eux deux. De ce fait, il serait tout aussi difficile à approcher. Jane achevait la lecture du dossier fourni par Radburn lorsqu'elle découvrit un moyen d'entrer en relation avec Schenck. Le dernier élément du rapport, assez sibyllin, se résumait à une phrase « Bertolt Schenck semble avoir des intérêts soigneusement cachés dans un site du Dark Web qui pourrait bien être lié à un bordel d'un genre très particulier. » Jane sut ce qu'il lui restait à faire. L'opération serait dangereuse, mais elle s'en fichait. Tout était dangereux dans le monde qui l'entourait. Se rendre à son travail en voiture quand on habitait Philadelphie pouvait se révéler fatale.